L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Roustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, on va faire un petit pas de côté puisqu'on va s'intéresser aux livres. Alors, au livre du patrimoine, mais pas seulement, vous allez voir ça. Et pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Très bien, et vous?
Eh bien, super. Alors, Bérénice, je suis ravi que vous soyez là. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a épluché l'ensemble des bouquins que nous avons et qui a fait des fiches, donc qui les connaît absolument par cœur et qui va donc nous présenter nos invités.
Exactement. Alors, on a déjà Adrien Hardy. Bonjour, Adrien. Vous êtes l'auteur du livre « Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier ». Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, enchanté. Ravi d'être là.
Eh bien, merci d'être là. Nous avons Cédric Bruguière aussi sur le plateau qui a écrit « Je manage ma vie ».
Oui, bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous.
Titre nous très aussi. Ambitieux, là.
Oui, hein, oui, oui. Et Thierry Ohayon qui a écrit un livre pour nous, les femmes, « L'argent au féminin ». Bonjour Thierry.
Bonjour, bonjour Bérénice, bonjour.
Voilà, les 10 blocages, on va le voir dans un instant, qui sont, que vous avez notés chez les femmes. On va en parler en un instant. On précise également que cette émission a été préparée par Sophie Bernard et qu'elle est venue en compagnie de son fan club. Merci, public.
Voilà, ils sont public là. Féminin, 100% féminin.
Exclusivement féminin, c'est bon.
Allez, cette grande librairie spéciale patrimoine, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On s'intéresse aux livres ce matin et on a 3 auteurs en plateau. Alors les auteurs qui ne font pas exclusivement qu'écrire des livres, évidemment, hein, ils sont reliés au patrimoine. On va commencer avec Adrien. Adrien Hardy, donc, qui a écrit ce petit livre, « Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier ». Adrien, tout est dans le titre. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est que comment vous avez fait pour financer vos rêves d'aventure? Racontez-nous votre parcours. Vous avez commencé un parcours assez classique, employé, et puis petit à petit, vous êtes jeté dans l'aventure immobilière. Racontez-nous.
Exactement. Donc, tout à fait. Donc, à la base, je suis ingénieur en urbanisme et ensuite, j'ai fait un master spécialisé en gestion de patrimoine et immobilier, le même que Thierry Ohayon, apparemment, je viens de l'apprendre tout à l'heure, donc à Bordeaux. Et donc, à la suite de ça, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une société de gestion en investissement immobilier, en asset management plus précisément, où on conseillait des fonds d'investissement, soit des SCPI, des OPCI ou des investisseurs institutionnels ou des fonds de pension.
On peut citer votre société?
Oui, voilà, ça s'appelait La Française.
Oui, qui est assez connue quand même dans le milieu. Vous étiez donc à bonne école pour voir déjà les rouages finalement de ces investissements immobiliers.
Voilà, exactement. Donc plutôt du côté, c'était surtout de l'immobilier d'entreprise. Donc plutôt des bureaux, des commerces, des hôtels, etc. Et j'ai eu la chance de passer par plusieurs postes, aussi bien à Paris qu'à Londres, dans cette entreprise. J'ai vraiment adoré mon métier. J'avais envie de me créer potentiellement une liberté pour pouvoir réaliser mes passions et me créer une sécurité financière et une certaine indépendance. Et de par mon métier, j'ai vu que forcément l'immobilier, c'était un moyen assez connu et puissant pour se créer des revenus complémentaires. Et donc à partir de ça, au bout de 2-3 ans de mon CDI, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à titre personnel.
D'accord, donc vous êtes allé à la banque, vous avez contracté un crédit.
Voilà, exactement.
Ça, pour un premier achat. C'est intéressant, Bérénice, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment sur YouTube, puis sur plein d'autres, acquérir sa fameuse liberté financière indépendante. Alors que pour les plus anciens, c'est préparer sa retraite. Et puis pour les jeunes, c'est vrai que c'est très tendance. C'est le fait d'investir, même commencer peut-être avec des petits investissements. Dès lors qu'on a un CDI, c'est vrai que la banque vous prête assez facilement. Et puis ensuite, une fois que ça marche, vous allez nous raconter, si effectivement on gagne plus que ce qu'on rembourse à la banque, ça fait un petit cash flow positif et on peut ainsi recommencer les opérations. Est-ce que c'est ce que vous avez fait?
Voilà, oui, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'était de, comme vous l'avez dit, pas forcément attendre la retraite. C'est un mot un peu sur YouTube, un peu qu'on entend beaucoup en ce moment, la retraite avant 30 ou 40 ans. Mais l'idée, c'est surtout c'est aussi comme la vieille école, c'est de se créer un patrimoine et des revenus complémentaires. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai commencé tout simplement à m'acheter un premier bien immobilier à partir de la banque.
Et du coup, votre déclic, c'était quoi en fait? Parce que en fait, les Français ont un amour pour la pierre. En France, on aime beaucoup la pierre, l'investissement dans la pierre. Seulement, il n'y a que 15% des gens qui sautent le pas de l'investissement locatif. C'est les chiffres qui sont tombés. Quel a été votre déclic en fait pour sauter le pas, pour franchir le cap justement et s'y mettre?
Moi, en dehors de ça, mon déclic, de par mon parcours, déjà, j'aime beaucoup l'architecture et l'immobilier, aussi bien la pierre, le côté physique. Donc, ça me parlait beaucoup plus, notamment, que la bourse ou d'autres placements. Donc, mon déclic, tout simplement, ça a été qu'au bout de un an ou deux ans, j'ai voulu d'abord pour investir, pour me créer me constituer un patrimoine. Vu que j'avais un CDI, c'était... Je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai fait énormément de visites, j'ai fait plusieurs offres et qui avaient été acceptées, par stress au début, je me suis rétracté.
Ah oui.
Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, même par mon parcours ou mes études. J'ai quand même, ça demande quand même, le déclic il vient progressivement en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Donc il y avait un peu de peur au début.
Il y avait un peu de peur, ouais. J'avais pourtant trouvé un bien très intéressant dans le secteur des Batignolles. Et je me suis rétracté après que l'offre ait été acceptée parce que j'avais quand même eu peur de faire les travaux soi-même, de contracter un crédit qui nous engage sur une certaine durée auprès de la banque, etc. Mais donc c'est à force d'expérience et que ma zone de confort s'est un peu élargie et que du coup je me suis...
Alors ça s'est sacrément élargi, Adrien, puisque vous avez aujourd'hui 6 biens immobiliers. Alors on comprend pour un, la banque va vous suivre, mais pour 5 ou 6, comment vous avez fait, à part si c'est des caves ou des souplex dans des zones très éloignées? Alors pas du tout, je crois que vous êtes resté sur la région parisienne.
Oui, tout à fait. Ouais, du coup, j'ai 4 biens à Paris et 2 à Saint-Denis, donc dans le 93. Et donc non, c'est pas des caves, c'est des appartements à Saint-Denis, c'est 2 grands appartements, un de 63 mètres carrés et un de 73 mètres carrés. Et à Paris, c'est 3 studios, deux studios, un local commercial et deux pièces.
La banque vous suit à chaque fois?
Et la banque, oui, me suit à chaque fois. En fait, ce qu'il faut, c'est que le premier bien, c'est un peu le plus important. Il faut qu'il soit rentable, donc que les loyers remboursent toutes les charges, le crédit immobilier, etc. Et à partir de là, faut vraiment voir ça comme une entreprise, en fait, avec un business plan, comme si c'était une start-up. Moi, je vois vraiment ça comme de l'entrepreneuriat, où on lance son entreprise et avec un business plan, un business model. Et
l'idée, qui rassure le banquier.
Qui rassure le banquier. Ouais. Il faut avoir un dossier vraiment ultra carré, ou avec une étude de marché, comme n'importe quelle entreprise, en fait. C'est une démarche entrepreneuriale.
À chaque fois, vos prêts, vous les avez souscrits en tant que... Vous étiez salarié en CDI?
Oui, tout à fait, ouais.
Et est-ce
ouais.
que vos revenus ont augmenté ou pas du tout?
C'était Si, en 3 ans, mes revenus avaient un peu augmenté. En plus, j'ai travaillé à Paris, après je suis parti à Londres. Et donc, mes revenus avaient un peu augmenté, ouais.
D'accord.
Mais du coup, après, dans la banque, forcément, dans son calcul, elle prend en compte les loyers qu'on génère aussi, qui sont considérés comme des revenus.
Des revenus, ouais.
Elle prend entre 70 et 80% à peu près de ces loyers pour se garder une marge de sécurité.
Alors, on a bien compris, et vous en parlez évidemment, de toute cette partie financement, c'est très clair. La rentabilité, ce que vous visez, etc. Comment faire? Donc, il y a vraiment des clés de l'investissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi faire tout ça? Bon, c'est sûr que ça peut être pour se mettre à l'abri d'ici quelques années, mais surtout, vous en profitez pour voyager. C'est-à-dire qu'il y a aussi un objectif derrière tout ça.
Oui, voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif, et c'est surtout ce que j'ai voulu mettre en lumière à travers ce livre. C'est vraiment le point central de ce livre, c'est parce que justement, il y a beaucoup d'articles dans la presse, à la télé, où on sait que investir dans l'immobilier, où on nous vend de l'immobilier, du Pinel, etc., mais les gens finalement ne savent pas vraiment pourquoi investir dans l'immobilier, quel est le sens profond de l'investissement dans l'immobilier. Bon, on entend pour sa retraite quand on aura 60 ans ou 65 ans, mais moi, ce que je voulais vraiment partager dans ce livre, c'est un peu un mot développement personnel qu'on entend beaucoup en ce moment et qui est bien vu ou mal vu des fois, mais c'est plutôt savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie et quelles sont nos passions. Ça peut être quelqu'un qui aime bien cuisiner, il a envie d'avoir un peu plus de temps pour cuisiner, c'est pas facile de travailler dans la restauration, et bah, du coup, peut-être que s'il investit dans l'immobilier, il pourra passer, soit il travaille dans un restaurant, il aura un peu plus de... Enfin, il pourra avoir des horaires un peu plus sympathiques, ou pour... Moi, voilà, c'était le voyage, mais j'ai utilisé le mot aventure. Il n'est pas choisi au hasard, ce mot aventure, parce que aventure, c'est pas forcément une aventure comme un voyage, mais ça peut être une aventure entrepreneuriale, une aventure, ça peut être tout et n'importe quoi.
Ça peut même être le défi de toucher enfin la pointe de ses orteils avec ses doigts. Parce que vous racontez que vous étiez très peu souple, et voilà, vous êtes passionné aussi par la méditation, par l'Asie qui vous attirait, et par tout cet univers, en fait. Vous vous êtes dit, ben voilà, moi, c'est des choses qui m'attirent, et j'ai envie de progresser là-dessus. C'est assez amusant, mais c'est révélateur aussi de cette ambition de voyager, de découvrir.
Très belle anecdote. Je ne m'attendais pas que vous pointiez le doigt sur celle-là. Bien choisi. Effectivement, j'aime bien cette image de toucher mes pieds parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup d'athlétisme. Et en fait, je dis aussi que mon travail, bien que j'avais la chance, comme je l'ai dit, j'adorais mon travail et j'étais souvent en déplacement pour des visites d'immeubles, etc., en voyage. Mais au final, on est souvent derrière un bureau toute la journée. Et même si je faisais encore un peu de sport, du yoga, etc., j'ai eu tendance un peu à me rédifier. Et ce que je veux aussi du coup partager dans ce livre, c'est l'importance de prendre soin de son corps, de son physique, de garder la forme. Et donc du coup, notamment au travers de ce voyage où j'avais un peu plus... J'étais rarement assis, j'étais beaucoup plus debout, en déplacement, etc., j'en ai profité pour faire beaucoup plus de sport et notamment travailler ma souplesse.
Voilà, et, donc objectif atteint.
Objectif atteint, ouais, je touche mes pieds, mes pieds, les doigts, les jambes tendues.
On va avancer, hein, financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier. Adrien Hardy, merci en tout cas de partager ce petit bouquin et ses aventures avec nous, et puis aussi comment atteindre son rêve. On fait le tour et puis après on va essayer de trouver des correspondances entre vous trois. On passe à vous, Cédric Bruguière. Je manage ma vie.
Oui.
Alors ça, c'est très ambitieux, ça, hein, je manage ma vie. Ça part du constat, là aussi, d'une certaine charge mentale, alors qu'on dit réservée aux femmes, mais pas seulement. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bouquin.
L'histoire fait écho à ce que j'ai traversé moi personnellement. Il y a quelques années, en 2017, j'étais salarié dans une grande entreprise avec un plan de charge assez dense. En même temps, ma femme a obtenu une promotion, donc ce qui l'a amené à venir sur Paris. J'habitais alors en province.
Vous habitez au Mans.
J'habitais au Mans, exactement.
Qui n'est pas très loin, mais pas très près non plus.
Voilà, il y a quand même deux heures de route en voiture et une heure en train. Et je faisais, moi, la navette quotidiennement entre les deux. Et de plus, j'avais les enfants à gérer. Et à la même période, il y a la BD d'Emma qui est sortie, qui s'appelait Fallait demander.
Fallait demander, oui.
Qui a mis en exergue ce phénomène de charge mentale. Et moi, je me suis aperçu qu'à cette époque-là, dans la mesure où je gérais à la fois ma vie professionnelle et je compensais au niveau du couple pour intégrer pleinement la charge de l'organisation familiale, que je la traversais. Et à un moment, j'ai même pris la décision, comme ma femme était promue sur Paris, il a fallu faire un déménagement. J'ai voulu, au départ, encaisser et prendre tout de franc, de go, en me faisant confiance, en disant « je ne vais pas noter ».
Les enfants, la maison, le boulot.
Voilà, exactement. Et un dimanche, je me suis dit « si je continue comme ça, je vais aller droit dans le mur ». Donc je me suis posé, une fois que les enfants se sont couchés, et j'ai réfléchi à quels outils je pouvais utiliser. Et c'est là que je me suis servi de ce que j'utilisais moi au quotidien en management et en gestion de projet pour le transposer à ma vie professionnelle. Et c'est là que ça m'a permis de cartographier tout ce que j'avais en tête, de créer des petits groupes thématiques qui me permettaient d'être plus efficace et me dire je vais prendre une demi-journée pour traiter chaque thématique, et puis prendre aussi des décisions parce qu'au bout d'un moment, la vie professionnelle occupait tellement de place sur cette cartographie que j'ai pris la décision de quitter mon emploi et de m'occuper de la conduite du jonchement familial pendant l'été et me recentrer sur une nouvelle activité à la rentrée.
Et c'est vrai que dans votre livre, justement, vous donnez alors des conseils parfois très pratiques et techniques. En fait, le chapitre 6, je planifie et je deviens ami avec les tableurs. Vous expliquez l'importance d'utiliser Excel, les calendriers, les alertes smartphone. Alors, c'est tout bête, mais c'est vrai que ça change la vie. Et quand on prend l'habitude, alors parfois, c'est un peu dur de prendre cette habitude, mais une fois qu'on a pris l'habitude, on ne peut plus s'en passer. Et c'est vraiment un gain de temps.
Oui, tout à fait. Après, c'était l'objectif de pouvoir mettre à l'écrit, parce que notre cerveau, il est fait pour avoir des idées, il n'est pas là pour s'en souvenir. Donc, moi, mon objectif, c'était d'inviter chaque lecteur à faire la démarche d'écrire. Et effectivement, après, pour organiser et se mettre en action, le fait d'utiliser des tableurs, des alertes, ça permet de soulager sa charge mentale et de faire confiance à ces outils pour qu'au moment opportun, on soit sollicité et qu'on puisse efficacement traiter la tâche.
Et moi, pour le coup, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait déjà il y a quelques mois. Et c'est vrai que ma vie a changé. Je vois un gain de temps. Non, mais c'est vrai, on est moins... En fait, c'est plus clair en fait, dans notre tête. Et du coup, les journées, on est plus efficaces.
Enfin. Oui, tout à fait. Moi, j'ai supprimé toutes les notifications qui viennent des applications, des réseaux sociaux. En revanche, je m'astreins à chaque fois que je pense à quelque chose, alors que ce n'est pas le moment opportun. Par exemple, je suis en réunion ou en visio avec un client. Je me dis, bah, tiens, il faut que j'aille faire telle course ou que je prenne tel rendez-vous. Je me fais rapidement une petite notification à un moment où je serai libre. Et comme ça, je sais que je suis rassuré, je penserai à le faire et ça sera fait.
Et du coup, vous dégagez de l'espace de mémoire. Le disque dur n'est pas saturé. Racontez-nous l'expérience de Zegarnik sur les garçons de café.
Exactement. Alors, Zegarnik, c'est une psychologue russe qui, au début du XXe siècle, en observant les garçons de café, a remarqué que ces serveurs avaient une faculté à mémoriser l'intégralité des commandes de leurs clients. Et une fois que ceci avait réglé, c'était un supprime. Donc, ils ne s'en souvenaient plus ou ils se souvenaient quelques bribes. Donc, ce qui l'a amené à l'éprouver cliniquement, donc elle a réalisé des tests en confiant à des cobayes humains une liste de tâches à faire, en sachant pertinemment que celle-ci ne pourra pas être remplie. Elle a questionné ces personnes à la fin du temps imparti et les personnes se souvenaient mieux des tâches qui étaient en cours et non finalisées que les tâches qu'ils avaient réalisées pendant ce laps de temps. Et donc, ça l'a permis de noter que, du coup, notre cerveau mémorise mieux les tâches en cours que celles qui sont finalisées. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une charge mentale, parce que généralement, on a tellement de choses à faire qu'on n'arrive pas à tout faire dans ce laps de temps et on est pollué par ces tâches en cours qui sont là en permanence. Moi, j'appelle ça des pensées pop-up qui, à n'importe quel moment, viennent surgir, lancer une lessive, penser à aller chercher mon enfant au judo, faire telle et telle course, ça reste là en permanence. Tant que ce n'est pas fait, ça reste dans notre inconscient.
Et alors, votre livre, il est très technique, mais aussi, moi, je lis beaucoup de livres de développement personnel et j'ai retrouvé certaines choses dedans, de développement personnel, vous parlez de technique, vous vous inspirez aussi du ikigai en japonais, hein, puisque vous êtes parti de la constatation que les habitants de l'île d'Okinawa vivaient plus longtemps. Oui. Et du coup, vous avez constaté.
Oui, c'est un outil qui a été développé sur l'observation parce que sur cette île, il y a une condensation de centenaires assez importante. Donc, il y a eu des études qui ont été faites pour étudier qu'était ce secret de longévité. Et ils se sont aperçus que c'était sur la question du sens. Comment ces personnes-là se consacraient dans leur quotidien, dans leur vie. Et donc, ils ont dégagé quatre grandes tendances qui permettent cette longévité. C'est faire ce qu'on aime dans la vie, faire ce pour quoi on est doué. Parce que du coup, ça capitalise et ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. On s'appuie sur ses forces. Ce qui impacte positivement le monde et ce qui permet aussi également de gagner de l'argent, parce que c'est ce qui permet d'obtenir une sécurité financière. Et en arrivant à conjuguer les quatre, on arrive, en faisant ce que l'on aime, ce pour quoi on est doué et qui apporte quelque chose de positif, à être plus efficace et plus en adéquation avec soi-même. C'est quelque part retrouver ce qui fait le sel de la vie pour nous. Donc cet ikigai est différent pour chaque personne. Il peut évoluer tout au long de la vie. Moi, je prends souvent l'exemple du sport et du football. On peut être, si on est passionné de foot, au début de carrière, on peut être joueur professionnel. Ensuite, on passe coach ou on peut ouvrir un magasin de sport ou être dans l'événement sportif, chroniqueur sportif. Et ça reste toujours la même passion qui vient guider tout au long de sa vie et on garde du plaisir dans ce que l'on fait.
Il faut être ouvert, en fait. Il ne faut pas se fermer des portes.
Exactement. Et puis, il faut être ouvert aussi sur le fait que peut-être qu'aujourd'hui, on va chercher ses sphères dans différents endroits. On a un job alimentaire et puis on va se nourrir à l'extérieur. Et peut-être qu'un jour, avec la volonté et le travail, on pourra arriver à concilier l'ensemble.
Effectivement, vous citez Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Une belle maxime. Voilà, donc un livre extrêmement pratique, je m'amène ma vie. Bon, déjà, la cartographie de la charge mentale, où est-ce qu'on en est pour s'auto-évaluer. Ensuite, des techniques, effectivement, pour essayer d'effacer tout ça. Bon, après, il y a des situations, évidemment, qui sont un peu plus compliquées. Hein. On est divorce, parents malades,
déménagement.
Mais il faut en parler. C'est des phases accepter que c'est sur ces périodes-là, ça soit compliqué, et justement, on soit surchargé.
Bien sûr.
Mais malgré cette surcharge, il faut prendre le temps du retour. recul et poser les choses pour pouvoir justement mieux le gérer et pas subir. C'est une invitation de ne plus subir les choses et reprendre la main les événements.
Et puis Cédric Bruguière, vous êtes inspiré aussi des grands gourous américains, David Allen, Getting Things Done, dont la méthode des 2 minutes. Allez, un petit truc pour tous ceux qui nous écoutent.
C'est une méthode que j'aime bien. C'est si cette tâche ou l'idée que vous avez prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Vous êtes au travail, vous devez prendre un rendez-vous chez le dentiste, ça prend 2 minutes, donc vous passez un coup de fil, vous appelez le secrétariat, vous calez le rendez-vous, c'est fait. Vous avez un mail à envoyer, ça prend moins de 2 minutes, vous faites ce mail. Vous pensez à quelque chose, vous voulez mettre le notifier, vous le faites tout de suite, comme ça c'est enregistré, c'est soulagé, et comme on parlait tout à l'heure de la mémoire désaturée, c'est quelque chose qui est évacué parce que vous avez fait une action, vous l'avez écrit, et donc c'est supprimé.
C'est vrai que ça, on a tendance à le faire. Je pense que c'est l'esprit humain, mais on se dit « Oh bon, je le ferai demain. » Et en fait, on le reporte et au final, on a 10 choses à faire de 2 minutes. Du coup, ça fait quand même 20 minutes.
Procrastination, et oui, quand tu nous tiens. Voilà, donc en tout cas, c'est très pratique. Je manage ma vie. Cédric Bruguière, c'est notre deuxième auteur du jour. On passe maintenant à Thierry Wayon, qui était déjà venu il y a quelques temps sur notre plateau. Et Thierry, deuxième opus. Avec que nous n'avez pas écrit tout seul, donc L'argent au féminin, écrit avec Catherine Lotte-Vernet et Sophie Mufang. Et vous nous disiez juste avant l'antenne que c'était beaucoup de travail de coordonner aussi ces idées. 10 conseils sur mesure pour bien choisir et agir pas à pas. Dans ce livre, Thierry Wayon, vous avez listé en fait des blocages que vous voyez au jour le jour avec vos clients, puisque vous êtes à part auteur émérite et bien conseiller en gestion de patrimoine.
Absolument. En fait, dans le premier ouvrage qui s'appelait « Les filles, osons parler argent », on a été énormément dans le constat. Mais constater une situation que tout le monde constate, ça ne fait pas avancer les choses. Dans le second livre, on a identifié 10 de blocages, on aurait pu en travailler plus. Mais à partir de chacun de ces blocages, on a utilisé aussi des témoignages de filles entre 20 et 30 ans, des filles de 30 à 50, et puis des filles au-dessus de 50 ans. Et ensuite, on a donné pour chacune des tranches d'âge des outils. Dans « Je me sens pas légitime », quelqu'un ne va pas avoir l'idée extraordinaire d'aller parler avec son banquier. Pas du tout. Puisque à partir du moment où on se sent pas légitime, on fait pas de démarche pour rendre les choses un peu plus simples pour soi-même. Et donc, on propose comme ça des conseils, aller voir plusieurs banquiers, parler en famille, ouvrir les chakras sur ces sujets-là. Et ensuite, pas à pas, on donne à la fois des idées, des outils, mais aussi des quiz dans lesquels les filles peuvent jouer.
Oui, c'est interactif.
Absolument.
Vous avez dit d'abord, ce livre est un peu un jouet.
C'est un jouet. Ce livre est un jouet dans lequel il y a une identification des blocages, des outils pour chaque forme de blocage, et aussi des quiz et une méthode de travail pour aller, puisqu'on parlait d'endettement, de comment travailler, comment réfléchir à sa capacité d'endettement, comment pousser l'endettement et comment avancer pour se protéger.
Parce qu'en fait, exactement. C'est ça. Alors, on se souvient votre passage pour Les filles osaient parler d'argent, votre premier opus. C'est vrai que vous étiez assez critique sur le fait que les femmes, notamment, sont plus fragiles financièrement que les hommes, se retrouvent dans des situations des fois très compliquées, notamment au moment, malheureusement, des accidents de la vie, décès ou divorce, où elles ne sont pas du tout occupées des choses financières. Est-ce que vous avez du coup la réponse, certains éclairages? Pourquoi aujourd'hui les femmes sont, pas toutes, attention, hein, parce que Bérénice était très critique, elle me dit mais pas du tout, c'est un tissu d'imbécilité,
non,
mais racontez-nous pourquoi justement. Alors, il faut continuer à travailler là-dessus.
Donc, non, je ne suis pas critique sur le comportement des femmes. J'alerte sur le comportement des femmes. Donc vous faisiez référence au fait que je fais de la gestion de patrimoine, mais moi je suis pas un ancien banquier, un ancien assureur. J'étais dans l'industrie de la technologie et par passion je suis venu dans ce métier. Et assez rapidement j'ai constaté que j'avais affaire à des femmes éduquées, intelligentes, professionnelles et qui avaient des vrais track record. On pouvait dire qu'elles avaient un vrai track record parce qu'elles avaient des vraies carrières, elles géraient des familles. Mais quand arrivait le moment de s'occuper d'elles-mêmes, elles étaient défaillantes. On peut utiliser ce mot, je pense, c'est de la défaillance. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables, à un moment donné, de dire, dans je manage ma vie, stop, il faut que je m'occupe de moi.
Bérénice.
Oui, en fait, je voulais juste faire une petite remarque. C'est vrai que ça fait bizarre, au début, un livre pour les femmes, sur les femmes, écrit par un homme. Ça peut surprendre. Enfin, moi, ça m'a surpris. La première chose que je me suis dite, c'est, quand j'avais vu votre premier livre, mais pourquoi un homme écrit un livre sur les femmes ? C'est vrai.
Parce qu'un homme, comme moi, ça découvre un jour la gestion de patrimoine, et puis ça découvre...
Les clientes.
Des clients. On va dire des hommes bien éduqués et de bonnes familles et qui conçoivent que puisqu'ils gagnent plus que leurs femmes, alors le patrimoine familial doit leur appartenir en propre. Et ils ne sont pas dans une démarche de protection de leur épouse, de leur compagne avec qui ils ont des enfants. Et pour moi, c'était une découverte, une surprise. Je ne m'attendais pas à ça, puisque je venais d'un environnement de gens, dans ma famille, dans mon environnement, tout le monde partageait.
Mais du coup, c'est vos clients, mais est-ce que ça s'applique à tout le monde ? Est-ce qu'on peut généraliser ?
Ça s'applique malheureusement beaucoup, beaucoup. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de mes activités et du fait que j'écris des bouquins, j'accompagne des femmes dans des situations de divorce et dans lesquelles je découvre... des situations totalement improbables. Quand je dis improbable, c'est l'histoire d'un monsieur, bonne éducation, bonne famille, et qui a toute sa vie durant, y compris pour la résidence principale, tout mis à son nom. C'est-à-dire qu'il a vécu avec une femme, ils se sont mariés, ils étaient dans des cercles de gens, okay, ils avaient des enfants, et malgré tout, monsieur n'a rien mis en partage avec son épouse.
Pas généreux, donc, les hommes, selon vous ?
C'est pas tous les hommes, d'accord ? Mais il y a, dans les couples, dans certaines circonstances, une espèce de chape comme ça, à l'intérieur de laquelle il y a une délinquance que certaines personnes s'autorisent avec l'argent.
Délinquance, carrément. Bon, on va creuser le sujet. On rappelle que pour une fois, on a un public, et en plus un public féminin, donc on va prendre leurs questions pendant la pause musicale. On se retrouve juste après avec nos trois auteurs. À tout de suite. A woman or a girl.
He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Un numéro spécial ce matin dans l'Hebdo Patrimoine, basé sur les livres, hein, Bérénice.
Tout à fait, trois auteurs.
Trois livres, L'argent au féminin terré au haillon, avec Catherine Lotte-Vernet et Sophie Mulfan. On ne va pas les oublier quand même,
non, bien sûr,
sur les femmes.
Très important.
Ça serait affreux de ne pas les citer. Absolument. Je manage ma vie, Cédric Bruguière, je manage ma vie, plein d'outils pour réduire sa charge mentale et mieux organiser, être plus performant et trouver son bonheur, son ikigai, on l'a dit dans la première partie. Et puis Adrien Hardy, le Benjamin de cette émission, Adrien qui a réussi à financer ses rêves d'aventure, pas tous les pays du monde, mais pas mal, grâce à l'immobilier. Et voilà, les bonnes recettes pour bâtir son empire immobilier. En tout cas, si bien immobilier déjà dans Paris, c'est pas mal, ça peut se signaler. Alors, on termine d'abord avec Thierry, puis ensuite on fera des passerelles entre vos trois ouvrages. C'est vrai que le thème, c'est quand même l'argent, c'est normal pour l'Hebdo Patrimoine. Bérénice, vous avez une question pour Thierry.
Oui, j'ai vu que Isabelle Adjani avait, enfin j'ai vu un article, Isabelle Adjani avait adoré votre livre et le lisait justement. Elle a dit qu'elle voulait se transformer en fourmi, qu'elle avait été une cigale et que votre livre lui apprenait à devenir une fourmi. Est-ce que c'est ça que vous comptez, quel est votre rôle? Vous avez dit à chaque fois qu'on prend le temps de réveiller une femme, on sauve une existence. Est-ce que c'est ça votre but en fait avec ce livre? Est-ce que c'est de sauver les femmes?
Pour reprendre le cas d'Isabelle Adjani, pourquoi elle a été pendant des années une cigale et que maintenant elle devient une fourmi? C'est parce qu'elle commence à vieillir et que cette échéance du vieillissement augmente chez elle, façon de parler, mais le désir de se protéger parce qu'elle sait qu'un jour, elle ne va plus pouvoir travailler.
Oui.
Mais en fait, cette prise de conscience, on l'a tous en vieillissant, parce que moi aussi, je commence à vieillir.
Vous pensez que c'est la vieillesse qui fait prendre... Qui... Regardez Adrien Hardy, jeune et il a eu ce déclic.
Alors, je confirme, ce n'est pas la vieillesse le sujet. Le sujet, c'est se protéger soi-même. Alors, comme ça, un petit exemple. Quand on regarde, et ce n'est pas très amusant, mais quand on regarde dans les EHPAD, on constate que 90% des pensionnaires des EHPAD sont des femmes. Donc ça signifie qu'elles vivent plus longtemps. Donc ça signifie qu'il faut les protéger, qu'il faut qu'elles se protègent mieux pour pouvoir gérer une vieillesse paisible dans un cadre agréable, avec des moyens nécessaires pour pouvoir gérer ça. Mmh. Le constat que je fais, dans le cadre de mes activités de gestion de patrimoine, c'est que vous avez des couples dans lesquels vous avez une femme qui, pour chaque événement heureux de sa vie, va se pénaliser patrimonialement.
Le mariage, la grossesse,
elle va réduire son activité, elle fait des enfants, son mari va lui expliquer que génial, profites-en comme ça, mais en fait lui, pendant qu'elle, elle va être un peu à la maison, lui il va accélérer professionnellement, il va se rendre moins disponible pour pouvoir répondre aux besoins.
C'est souvent
de sa
aussi
carrière.
Celui qui a le plus gros salaire, donc est-ce que c'est différent si l'homme gagne beaucoup moins?
Ça a beaucoup changé. Au niveau, il y a une étude de qui a été faite au niveau pan-européen d'un des réseaux de femmes, qui montrait que plus de 50% des femmes gagnaient, dans certains cas pour les cadres, plus que leurs hommes.
Et c'est en train de changer aussi au niveau, par exemple, du congé paternité. Maintenant, il a été agrandi, on a 6 semaines, dans certaines boîtes, c'est même 8 semaines. Heureusement, d'ailleurs, et aussi, les femmes prennent leur carrière, enfin continuent leur carrière, même en ayant des enfants.
Alors,
les mentalités changent un petit peu.
Les mentalités tente de changer.
C'est pas encore le cas.
Mais dans les faits, c'est vrai que c'est souvent les femmes qui se sacrifient, entre guillemets.
Mais c'est souvent les femmes qui acceptent de partir à l'étranger parce que monsieur a une promotion. C'est-à-dire, dans votre entourage, les hommes qui laissent tomber leur job parce que madame a une promotion et qu'il faut qu'elle parte à l'étranger, c'est pas un cas courant. Hein. Enfin, je veux dire, c'est plutôt même une exception.
Alors, Cédric Bruguière, vous nous disiez tout à l'heure, en préambule, vous aviez essayé de manager tout ça. Votre femme était appelée à des fonctions à Paris. Vous étiez en pris entre la maison au Mans, de 100 km de Paris, et Paris.
Oui.
Comment ça... comment vous avez résolu cette équation? Est-ce que ça change ou est-ce que l'un, quand même, dans le couple, est obligé de se sacrifier, entre guillemets?
C'est pas forcément un sacrifice, c'est un changement d'organisation, en fin de compte. C'est une recherche d'équilibre différent. Parce qu'avant, même si j'étais un papa investi, c'était quand même elle qui supportait quand même la majorité des contraintes familiales et ménagères. Et là, il y a eu un basculement. Donc, il a fallu remettre les cartes sur table et se redéfinir la répartition des tâches. C'est un équilibre nouveau à trouver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passage de perturbations et des turbulences dans cette phase de transition. Mais il faut en avoir conscience. Il faut poser les choses. Et tout à l'heure, Thierry évoquait les changements de mentalité et qu'on s'apercevait que des femmes gagnaient plus. Et il faut,
donc, c'est ça. En fait, on se pose la question, qui rapporte le plus d'argent à la maison ou pas? Comment on s'organise? On se dit, tiens,
oui, bien sûr,
t'as le plus gros salaire, donc je te
forcément,
suis.
Forcément, la personne qui gagne le plus gros salaire, on va le prioriser sur le, quand il y a des enjeux, quand à un moment, l'enfant est malade et qu'un des parents doit aller chercher l'enfant à l'école, et qu'il y a des enjeux sur le moment, on va privilégier l'enjeu qui rapporte le plus d'argent. C'est une mécanique qui est naturelle, que ce soit l'homme ou la femme. Alors, historiquement, ça a été majoritairement les femmes qui l'ont fait. Maintenant, j'ai l'impression que surtout sur les générations plus récentes, cette question se pose de manière dégenrée.
Et puis le réflexe quand même de l'éducation, etc., c'est quand même d'appeler la maman. En tout cas, moi, c'est ce que ma femme me dit, c'est qu'on l'appelle beaucoup plus souvent.
Et ma femme, un truc, c'est qu'elle mettait le parent 1, elle mettait mon nom.
Comme voilà, il y a le parent 1 et le parent 2, c'est vrai.
C'était l'invitation à appeler un peu plus le papa.
Juste une question. Alors moi, j'aime bien le bouquin parce qu'il y a aussi des images, donc je les lis beaucoup plus facilement. et on voit une dame qui est...
C'est pour les garçons. Voilà,
c'est pour les garçons.
C'est gentil d'avoir pensé à nous. Alors il y a une dame qui est un peu timide devant son patron, qui a l'air un peu renfrogné, et qui lui dit d'une petite voix, on imagine, « Et sinon, quand vous aurez une petite minute, vous pourrez penser à ma petite augmentation. » Et ça, je trouve que c'est très vrai, c'est-à-dire qu'avant de penser justement à la répartition, etc., eh bien, les femmes, peut-être, ne vont pas assez, par rapport à un homme, à l'offensive, pour dire « Ben voilà, moi, je le mérite autant qu'un homme, et demander plus ou au moins ce qu'elles valent, tout simplement. »
Tout ça, c'est une question de relation à l'argent, c'est une question de pudeur à la relation dans l'argent. Et moi, j'ai entendu plusieurs fois des conférences dans lesquelles, notamment une des grandes patronnes de chez IBM, qui disait que quand on ouvrait une promotion, tous les garçons qui étaient éligibles tapaient à la porte toute la journée de celui qui était censé attribuer la promotion, et que la seule femme qui était la plus légitime et qui pouvait avoir cette promotion ne venait pas taper à la porte. Alors on est allé la voir, on lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas à ton tour taper à la porte? Tu es légitime dans cette promotion. » Et dans la compétition qu'il y avait entre elle et les hommes, elle a préféré passer son tour. Elle n'a pas souhaité se battre. Dans la relation à l'argent, on est capable, si on a une relation décomplexée à l'argent, de demander une augmentation quand c'est le moment, parce qu'on considère que ça fait partie de la continuité de la discussion sur la carrière, sur les achievements. D'accord ? Mais quand on n'a pas cette relation simple à l'argent, alors on prend une position complexée de retrait, de repli. D'où l'idée, excusez-moi, de donner des outils ici.
Bien sûr.
Après, il y a chez les femmes, il y a aussi en France. En France, aimer gagner de l'argent, c'est un peu tabou, il faut le dire. C'est plus tabou qu'aux États-Unis, par exemple. Quelqu'un qui veut bien réussir sa vie, c'est mal vu. On évite de le dire. Alors, c'est en train de changer, mais pendant longtemps, ça a été ça.
Moi, j'ai beaucoup de mal à dire en France, pas en France, parce que dans les rencontres que je fais avec des femmes qui sont des femmes d'affaires, qui parlent d'argent dans leurs entreprises, qui gèrent des chiffres d'affaires extraordinaires, qui ont des relations à l'argent professionnel, c'est des véritables professionnels. Et quand arrive le moment de parler de leur argent perso, elles sont dans une position, j'exagère un petit peu, mais enfant.
Ah oui, historiquement, c'est très récent la relation de la femme avec l'argent, parce que encore dernièrement, j'ai vu un documentaire sur Simone Veil, et alors qu'elle était déjà magistrate et occupée des hautes fonctions, ça fait quoi? Ça fait 50 ans que les femmes ont la possibilité d'ouvrir leur propre compte.
1964.
Exactement. Ouais. Donc Donc c'est très récent. Donc c'est comment, dans la construction de la femme, les femmes ont pu s'approprier ce sujet de l'argent. Donc pour elles, c'est tout à fait jeune. Et pour en revenir sur l'histoire de la promotion, il y a quelques études qui démontraient il y a quelques années qu'un homme, pour pouvoir prétendre à une promotion, il estime qu'à partir de 40% de compétences qui matchent avec le poste qu'il vise, il est légitime. Alors qu'une femme, c'est 60-70%.
J'avais même vu 25%. Donc il y a plus colletés. Dans les caractéristiques, il y a une seule chose. Le garçon va dire, oui, c'est le job est pour moi.
C'est une femme, salaire.
Non, je sais tout faire sur un truc, donc j'y vais pas.
Donc ça, c'est vrai. Donc que ça soit avec l'argent ou avec la carrière, il y a eu toute une mécanique qu'il faut casser l'autocensure que peuvent ressentir certaines femmes.
J'ai une question pour Adrien. Est-ce que justement, vous Adrien, qui avez parcouru les chemins aussi, vous avez rencontré des aventurières pour le coup, des jeunes femmes, des jeunes filles qui font comme vous, qui se baladent sac au dos. On en voit beaucoup aussi sur les routes, notamment tout ce qui est anglo-saxon, américaine, australienne. Et puis un petit peu moins après, là aussi, c'est un petit peu dommage, mais votre perception, c'est quoi sur ce sujet?
Bah oui, pour le coup, je dirais même que j'ai l'impression que j'ai rencontré plus de femmes ou de filles qui voyageaient seules que de
backpackers.
Des backpackeuses, ouais, que des hommes. Il y en a pas mal en Asie, même en Amérique centrale, des aventurières qui n'ont pas peur de prendre leur sac à dos et partir à l'aventure seules. Donc j'étais plutôt agréablement surpris par rapport à ça.
Et pour faire le lien avec notre sujet, est-ce que vous avez dans vos relations des amis, des copines qui vous demandent conseil justement sur ces sujets, dire tiens Adrien, toi t'es spécialiste, on voit que t'as financé, est-ce qu'on voudrait faire pareil ou c'est plutôt des conversations avec des garçons?
De plus en plus, il y a des femmes des amis qui me demandent comment essayer de gérer son argent, mais c'est vrai qu'à la base, j'aurais plutôt tendance à rejoindre ce que dirait Thierry. C'est plutôt des hommes, des amis masculins qui me demandent conseil par rapport à ça. Je pense que, mais j'ai quand même un peu l'impression que
c'est en train de changer.
Enfin, c'est en train de changer un peu.
Et ils veulent investir en couple ou seuls, les hommes qui vous demandent
En général, c'est plutôt seul. Ouais. Dans autour de mon âge, pour le moment, c'est plutôt seul.
Ils sont aussi
célibataires. Donc on rejoint. pas forcément, non.
Après, ça dépend. J'ai des amis qui ont lu mon livre et qui sont en couple et qui n'ont pas du tout, même s'ils ont lu mon livre, cette vision. Ils sont plutôt dans le schéma classique entre guillemets, mais plutôt s'ils travaillent à Paris, acheter un appartement, leur résidence principale en couple. Donc c'est un peu le chemin différent que moi j'essaye de mettre en avant dans mon livre, qui est plutôt que pourquoi pas rester locataire de sa résidence principale et plutôt faire des investissements locatifs pour se créer une certaine indépendance qui permettront de garder de la flexibilité pour sa résidence principale et payer son loyer.
Vous actuellement vous êtes locataire?
Je suis locataire, ouais.
D'accord. Je voudrais juste complémenter ce que vient de dire notre ami.
Tiens, voyons, allez-y.
En fait, en 68, on a expliqué aux filles que la liberté, c'était de ne pas se marier. Fantastique. Et donc aujourd'hui, vous avez des couples qui sont ensemble depuis 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Des fois, ils ont même des enfants. Ils ne sont pas paxés, ils ne sont pas mariés. Et donc, quand arrive le sujet de l'argent, chacun s'accommode avec ça. Je vais vous raconter une jolie anecdote. Quand je publie mon premier livre, je rencontre une dame dans une boîte d'édition qui m'explique qu'elle est en fait en couple avec un monsieur. Ils ont deux enfants et ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Mais quand elle est arrivée chez le notaire, pour l'héritage de monsieur, on lui a demandé de sortir parce qu'elle n'était rien pour lui. Ça nous fait dire quoi? Ça nous fait dire aussi que dans ces sujets d'argent, dans cette nouvelle génération de couples, on a tendance à fabriquer une génération de compagnons qui, dans la construction financière de ces couples, seront lésés à un moment donné. Pourquoi? Parce que il est pas marié ou elle n'est pas mariée avec lui. Et donc, ils ont un comportement individuel vis-à-vis de ça.
Il faut se protéger, donc se marier pour se protéger.
C'est pas forcément le mariage, c'est du savoir parler au moment dans le couple, parler d'argent et fixer les règles du jeu. Et l'argent en fait partie.
Mais c'est vrai que Thierry, vous disiez, en fait, les gens ne le savent pas, ne se posent pas la question, ne le voient pas. peut-être, non? Vous pensez que...
Non.
C'est « j'ai pas le temps » aussi.
C'est délibéré.
Hein. Blocage numéro 7 dans votre livre, « j'ai pas le temps ouais. », disent les femmes. Voilà.
Ouais.
Une working girl, mon épargne, pas vraiment le temps d'y penser.
Ouais. Ouais.
Et c'est souvent le cas, en fait. C'est...
Bah, vous avez il y a le sujet de la charge mentale, on en parle
exactement
à l'instant.
Ça,
ouais. Quand vous avez une charge mentale, acheter de l'immobilier, c'est sympa. C'est,
ouais.
Mais c'est pas simple. D'abord, il faut visiter, il faut faire quoi, 15, 20 visites, 30 visites. Il faut les trouver.
Après,
dans un
faut
emploi
pas généraliser non plus. Hein. Il y a des femmes qui épargnent et qui font des investissements locatifs, heureusement d'ailleurs,
non,
et qui le font seules.
Et qui le font très très bien.
Ouais.
Je dis simplement que, puisque dans la notion de « j'ai pas le temps », il faut beaucoup de temps pour organiser
oui.
sa protection financière, chercher de l'immobilier, puisqu'on parle d'immobilier, ou alors comprendre les rouages de placement financier. Ça prend du temps, trouver les bons interlocuteurs. Faire de la dette auprès d'une banque, c'est un processus. Il faut une tonne de papier parce qu'il en faut. Voilà, donc ça nécessite du temps.
On passe, messieurs, dames, aux questions du public et des internautes. Alors, première question, c'est pour Thierry. Avez-vous encore beaucoup de clientes en 2021 qui ne s'intéressent pas à l'argent ?
Oui, j'ai beaucoup de clientes qui ont de l'argent et qui sont dans le déni de ce dont elles sont propriétaires. Et que je suis obligé d'accompagner auprès d'interlocuteurs qui leur sont pas qui leur sont désagréables.
Pas ouverts, quoi.
Quoi, aller chez le banquier, par exemple, c'est compliqué.
Elles ont de l'argent placé et elles n'arrivent plus à parler avec leurs interlocuteurs parce que les interlocuteurs ont changé, mais aussi à un moment donné, les interlocuteurs en question ne les traitent pas bien.
Mmh.
Au nom de tu comprends rien.
Bon, donc d'où l'idée quand même de se faire peut-être conseiller.
Ou accompagner.
Accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.
Enfin, c'est quand même triste de devoir se faire accompagner par un homme chez son banquier parce que le banquier nous parle mal.
Non, ça peut être une femme.
C'est triste.
Bah... Ça peut être une femme. Le problème, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a une rotation perpétuelle dans les banques de réseau, notamment. Hein. Tout le monde peut-être en gestion de fortune, c'est un peu différent. Mais sinon, vous avez un banquier qui dure 2-3 ans maximum.
Oui.
Vous avez à peine le temps de faire une relation. Et, parce qu'en plus, on est très occupé.
Et
puis,
paf,
ça change. Donc, ouais. Du coup, on avait raconté des choses. Il faut tout recommencer. On n'a pas forcément envie. Et ça, c'est un vrai sujet. Merci. On va faire des réponses courtes. Cédric, peut-on dire que nous sommes fil conducteur de notre vie?
Au-delà de fil conducteur, on est même acteur de notre vie. Donc effectivement, il faut avoir un fil conducteur qui nous corresponde, qui nous fasse vibrer, qui touche nos valeurs, qui touche nos émotions et qui nous permette justement de s'épanouir dans notre relation. Mais il faut aussi reprendre les choses en main et du coup agir pour que ces choses-là transparaissent dans ce que l'on fait. Parce que ça va d'une part être en congruence avec ce que l'on est, et puis ça va nous enrichir et nous nourrir au quotidien, nous donner de l'énergie, cette envie d'avancer, de se réaliser.
Bon, l'ikigai, vous en approchez?
Moi, je l'ai trouvé.
Vous l'avez trouvé. Oh, bah, ça, c'est super. Bravo. Bravo, bravo. Nous aussi, sur ce plateau, on est ravis d'être là. Voilà. Adrien, la question d'Adrien, j'ai oublié tout à l'heure. Oui, c'est est-ce qu'il faut commencer tôt, en fait, pour financer ses rêves? Est-ce qu'il faut commencer forcément jeune?
Bah, pas forcément. Après, plus on commence jeune, mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard pour manager sa vie, prendre sa vie en main. Et
si peut-être je précise la question, c'est par rapport à ce que vous nous avez raconté, aller voir le banquier, ouais. Peut-être, hein, justement, c'est des blocages pour les dames qui nous écoutent, et puis se dire, bah, tiens, je fais un premier achat immobilier, un investissement locatif, par exemple, on peut le faire à tout âge, ou quand c'est que c'est conseillé, vous l'avez fait jeune, mais on peut le faire...
On peut le faire à tout âge, ouais. Mais pour la petite anecdote, mes grands-parents ont 82 ans, et ils sont en train d'acheter... une maison à 82 ans en Normandie.
Ah oui. Et ouais. Une banque les suit.
Pour le coup, j'ai pas creusé la question avec eux s'ils étaient. Si... Mais déjà, rien que le fait d'avoir 82 ans et d'encore avoir des projets de vie,
oui.
Je trouve ça.
Ils ont encore des rêves d'aventure.
Exactement, voilà. Mais non, mais il est jamais. Et même à 40, 50 ans, les banques suivent encore pour. Après, bon, il y aura peut-être l'assurance qui sera
un peu plus
élevée,
cher,
etc.
Ouais.
Mais il est toujours possible d'investir dans.
Bien sûr,
dans
les notamment parce qu'on a fini d'acheter sa résidence principale et donc le banquier suit en général. Vous avez quelque chose en garantie. Thierry.
Moi, je voulais juste ajouter que, en fait, investir, c'est pas forcément avoir les moyens. C'est avoir l'énergie de le faire. Parce qu'on peut avoir une banque qui nous dit non, on peut avoir 10 banques qui disent non, mais on va en trouver une qui va nous dire oui. C'est une question de temps et d'énergie. Donc, est-ce qu'il faut commencer tôt? Oui, bien sûr qu'il faut commencer tôt. Dans les familles en France, le patrimoine ne circule pas assez, c'est-à-dire qu'en fait, les anciens gardent trop d'argent et après, ils dépassent les 70 ans et malheureusement, tout ça, ça part en impôts.
Le gouvernement essaye de faire bouger ça d'ailleurs en
absolument,
ce moment.
Absolument, absolument. Je suis en plein dans ce process-là.
Bon, ça sera le prochain bouquin. Cédric Brière.
C'est pour aussi, ça, c'est, moi, je pense que c'est pour pas culpabiliser. Effectivement, il faut commencer tôt, mais moi, je dirais plutôt qu'il faut y aller quand on se sent prêt, en fait. Quand on a commencé à réfléchir sur la chose et se sentir. Et se faire un peu violence, parce que tout à l'heure, Adrien parlait de sa zone de confort. Et écoute, sur les premiers investissements qu'il a fait, il avait des doutes. Voilà. Et ça, en management, on l'étudie. Hein. Il y a la zone de confort, il y a la zone de peur. C'est justement la zone où on a des doutes, on peut se rétracter parce qu'on a peur d'affronter ces risques-là. Mais après, en consultant justement des banquiers, des gens qui sont spécialisés, des experts, on arrive dans des zones d'apprentissage. On apprend le jargon, on apprend les mécaniques. Et puis après, c'est là qu'arrive la zone de croissance. Donc, il faut avoir conscience aussi de ces différentes étapes et de se dire, voilà, aujourd'hui, je veux investir. Je vais me faire violence pour aller consulter. Pas forcément violence, mais je vais sortir de cette zone de confort et dire, je vais oser aller prendre rendez-vous avec quelqu'un qui en sait plus que moi.
C'est un peu le thème de vos trois livres. Hein. Oui, oser, n'ayez pas peur et bougez-vous.
C'est surtout le pourquoi, en fait. Parce que pour trouver cette fameuse énergie et motivation, bah, il faut avoir trouvé justement son ikigai et pourquoi on veut le faire. Et une fois qu'on sait pourquoi on veut le faire, bah, l'énergie, on la trouve.
Merci messieurs, c'était passionnant. On renvoie non pas à un mais aux trois bouquins. Précipitez-vous, les librairies sont des commerces essentiels, hein, vous le savez, contrairement au deuxième confinement. Donc financez ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier. Adrien Hardy, L'argent au féminin, c'est Thierry Wayon avec Catherine Vernet et Sophie Buffanque. C'est Ellipse, le premier c'est Blue Green Edition, ce sont vos propres éditions, bravo Adrien. Et Je manage ma vie, Cédric Bruguière, préface de Marlène Schiappa. Un grand merci à vous tous. On a appris beaucoup de choses. Bérénice, merci pour cette animation. Merci à Sophie Bernard qui a préparé au public en délire. Merci à nos ingénieurs du son, Théo Benoît-Rombourg et Pierre Eiffelson qui ont réalisé cette émission. Et puis, on vous dit à très bientôt pour
très
vos prochains ouvrages.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous les deux.
À la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.